Et au menu de notre club du vendredi, le Blob, un drôle d'organisme unicellulaire, les 80 ans du Palais de la Découverte et un coup de projecteur sur les abeilles sauvages. Et je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, une étude sur les liens entre la consommation de cannabis et les résultats scolaires.
Et des données qui se précisent pour dire qu'une consommation précoce réduit significativement les chances de faire des études longues. On en discute avec l'épidémiologiste Maria Melchior.
Voilà donc pour le programme de ce club qui est réalisé aujourd'hui par Stéphanie Texier et préparé par Dylan Beiner.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités, Audrey Dussoutour, Emmanuel Lambert, Bruno Macquart et Nicolas Verriken. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Bienvenue Audrey Dussoutour. La créature dont vous allez nous parler s'appelle le Blob. Il s'agit d'une espèce non identifiée encore.
Oui, ni animal, ni végétal, une cellule qui peut faire 10 mètres carrés.
Oui, vous en avez apporté une avec vous d'ailleurs.
Oui, deux de 20 cm carrés à peu près.
Voilà, qui sont en train de manger des flocons.
Ouais.
Voilà.
Et attaquer mon téléphone.
Vous allez nous présenter ça dans un instant. Bruno Macquart, le Palais de la Découverte fête ce week-end ses 80 ans avec deux journées portes ouvertes pour le public. Dès 1937, donc le palais fait se dresser les cheveux sur la tête des visiteurs, c'est ça? Ça a commencé très tôt, hein?
Ça a commencé très tôt et ça va continuer encore longtemps. C'est un établissement dans lequel on donne droit de féerie à la science et venez vite.
Et l'électricité statique était donc là dès les premiers jours. Emmanuel Lambert, le week-end va être chargé pour les médiateurs du palais.
Oh oui, avec une nuit blanche et plein d'autres surprises qui vous attendent.
Bon, vous avez pris la vitamine C?
Au moins.
Allez, Nicolas Verriken, on va parler avec vous du déclin catastrophique des abeilles sauvages. On fait souvent la lumière sur les abeilles domestiques, or les sauvages, on les oublie beaucoup. Hein.
Elles sont belles, elles sont fascinantes, utiles, et donc ça vaut le coup de découvrir tout ça.
Ouais, ce sera avec vous dans un instant. Vous publiez un ouvrage qui s'appelle « Découvrir et protéger nos abeilles sauvages ». Voilà pour les thèmes de ce club, et on se retrouve avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et la consommation de cannabis avant 17 ans qui réduit de moitié les chances de faire des études secondaires. Résultat important à la une de la science aujourd'hui.
Ben, mon rythme, c'est à peu près tous les jours. À peu près tous les jours.
À peu près tous les jours aussi.
De fumer un joint tous les jours, vous trouvez ça normal?
Pour certaines personnes, c'est pas normal ça. Pour certaines personnes, ils se disent « ouais, c'est trop » et tout. Mais ouais, tout dépend des personnes, tout dépend de ce qu'ils font de leur vie, boulot et tout ça.
Bonjour Maria Melchior.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM et vous avez coordonné cette étude publiée aujourd'hui sur la cohorte Tempo. Plus de 1100 jeunes que vous suivez ainsi que leurs familles donc depuis maintenant 1991. Et donc ce résultat choc, les chances de faire des études secondaires lorsque l'on commence à fumer avant 17 ans sont réduites de 60%. C'est absolument énorme comme résultat.
Oui, tout à fait. Enfin, on sait de toute façon que le cannabis a des effets sur les fonctions exécutives, sur la concentration, la mémoire. Mais là, l'intérêt de cette étude, c'est de montrer l'impact de ces modifications cérébrales sur le devenir scolaire des jeunes. Et en plus, avec les données de la cohorte Tempo, nous avons eu la possibilité de prendre en compte les difficultés psychologiques et scolaires des jeunes dans l'enfance et l'adolescence avant le moment où ils ont pu commencer à consommer du cannabis, et aussi les caractéristiques de leur famille, puisque leurs parents participent aussi à une grande étude épidémiologique.
Justement, Maria Melchior, avant de parler plus des résultats, à quoi consiste un travail de cohorte, comme vous l'avez fait?
Donc, dans une étude comme celle-ci, on a sélectionné des personnes qui ont accepté de participer à une étude sur le long cours. Donc, on leur a envoyé plusieurs fois des questionnaires et au fur et à mesure, on étudie l'évolution de leur état de santé.
Et quel est l'intérêt de pouvoir le faire sur des temps longs comme cela?
Alors, pour une étude comme celle-ci, l'intérêt, c'est de pouvoir mesurer en particulier les difficultés psychologiques, les difficultés scolaires des enfants et aussi le contexte familial bien avant la consommation de cannabis et la fin des études pour être certain que les problèmes rencontrés par les jeunes n'influencent pas la manière dont ils rapportent
leur situation intérieure. Pour éviter les biais, donc, pour cette étude. Ce sont des questionnaires que vous leur envoyez donc, tout au long de ces années?
Des questionnaires par soit papier, soit par internet, de plus en plus. On a aussi fait des entretiens téléphoniques.
Alors, justement, concernant les biais, est-ce que vos données vous permettent vraiment de dire si c'est la substance, cannabis, ses effets ou le contexte dans lequel on la fume qui influe sur les résultats scolaires?
Alors là, avec les données que nous avions, nous avons pu vraiment rendre les jeunes complètement identiques, si on peut dire, en tout cas sur le plan statistique, en termes de environnement familial, difficultés précoces, sauf pour le moment où ils ont consommé ou non du cannabis. Il y a quand même 40% de jeunes dans l'étude qui n'ont jamais consommé de cannabis.
Est-ce que ça veut dire que c'est la substance ?
Oui, c'est ce qu'on peut penser, c'est que, en tout cas, la substance agit sur le devenir scolaire des jeunes. Après, les mécanismes sont certainement complexes, ils sont peut-être biologiques, mais aussi comportementaux. Le fait de fumer du cannabis a des effets sur la motivation des jeunes, donc évidemment, ne renforce pas leur adhésion à l'école. Voilà.
Vous dites 40% ne fumez pas de cannabis, ça veut dire que sur l'ensemble de la cohorte, 60% des jeunes interrogés fument du cannabis ?
C'est-à-dire avait déjà essayé de fumer du cannabis, ce qui est comparable aux données nationales en France. À 17 ans, un jeune sur deux a déjà fumé du cannabis. Et c'est vrai pour un jeune sur 10 au collège déjà.
Pourquoi cet âge de 17 ans, cet âge limite, quand les jeunes commencent après 17 ans, vous voyez plus d'effet sur les résultats ?
Alors, on a pris comme âge de consommation précoce 17 ans, d'abord parce que ça correspond à un âge qui a du sens en termes scolaires, c'est-à-dire que donc c'est avant la fin du lycée et le baccalauréat. Et puis, on sait par des recherches en neurosciences que plus la consommation est précoce, plus les effets sur le cerveau peuvent être importants.
Vous avez des explications à ce résultat-là ?
Le fait que les effets soient plus importants, oui, parce que le cerveau adolescent se développe jusqu'à l'âge de, enfin le cerveau se développe jusqu'à l'âge de 25 ans environ, et donc la période de l'adolescence est une période de maturation et de développement des connexions neuronales particulièrement importantes, et donc peut-être que les consommations de produits psychoactifs, cannabis mais aussi alcool ou d'autres produits pourrait avoir des effets particulièrement marqués. C'est une période critique, si vous voulez.
Les études, justement, en neurosciences sont nombreuses aujourd'hui, qui montrent justement les effets délétères du cannabis sur le cerveau des adolescents. À peu près tout le monde est d'accord sur cette question-là aujourd'hui.
Oui, je pense que tout le monde est d'accord pour le cannabis, mais aussi l'alcool et d'autres produits. Ouais. Et on a également maintenant des études plus particulièrement sur le cannabis qui montrent qu'une consommation chronique au cours de la vie, au-delà de l'adolescence, a des effets également sur le quotient intellectuel et sur les capacités cognitives à long terme.
Alors, vous montrez dans l'étude une différence de résultats entre garçons et filles. Ça montre aussi un effet de contexte.
Oui, tout à fait. Les filles sont moins nombreuses à consommer du cannabis, mais celles qui le font, et en particulier à des âges très jeunes, font l'expérience de conséquences en termes de scolarité plus importantes. Alors, c'est peut-être pour des raisons biologiques. Il y a des études qui suggèrent que le métabolisme du cannabis, mais aussi d'autres produits psychoactifs, n'est pas le même chez les hommes et chez les femmes, et les filles pourraient être particulièrement vulnérables aux effets négatifs. Mais aussi, comme elles sont plus nombreuses, elles sont peut-être plus mises à l'écart ou stigmatisées en cas de consommation, ce qui a des effets sur leur relation avec l'entourage et puis l'insertion scolaire aussi.
Est-ce que vous voyez des nuances dans les niveaux de consommation et dans les effets ?
Et vous les avez identifiés justement, ces niveaux de consommation ?
Oui, alors nous avons étudié sur un sous-échantillon de la cohorte Tempo le lien entre une consommation régulière, donc au moins 10 fois dans l'année, et le niveau scolaire plus tard, et on voit que plus le niveau de consommation est élevé, plus la probabilité de ne pas poursuivre d'études est augmentée.
Et finalement, quand on finit par ce résultat, 60% qui est gros, quel est le message de santé publique qu'on dévoile après ?
Le message principal, c'est que il faut prévenir les consommations de cannabis chez les adolescents. C'était déjà la conclusion de l'expertise collective de l'INSERM sur les conduites addictives chez les jeunes il y a 2 ans environ. Et après, il y a différentes méthodes de prévention. Il y a l'information, bien sûr, sur les risques à court terme, surtout. Les risques pour la concentration, la mémoire, la motivation. L'information des parents, bien sûr, et de l'entourage. Et aussi des interventions qui visent à améliorer les compétences psychosociales des jeunes, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des émotions, gestion des situations de conflit, estime de soi, parce que finalement, c'est uniquement ces interventions qui ont vraiment des effets bénéfiques, préventifs à long terme.
Mais ça, c'est le rôle aussi de l'épidémiologiste de porter ce type de message de prévention, ou au fond, c'est une autre partie, c'est-à-dire que vous faites le travail de recherche, et puis ensuite, vous livrez ces résultats, et d'autres s'occupent de mettre en garde contre les dangers de la substance, ou pas ? Comment ça fonctionne ?
Alors, je peux pas dire que cette conclusion soit basée sur mes propres travaux. C'est les travaux d'autres personnes que j'ai lues et intégrées à mes recherches. Mais je pense que si on veut que l'épidémiologie soit utile à la santé publique, il faut aussi réfléchir.
Porter des messages.
Oui, à la manière dont les résultats peuvent ensuite être utilisés dans l'action publique.
Vous travaillez là, sur le cerveau des adolescents qui est en formation jusqu'à 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats sur la consommation chronique chez l'adulte ? Est-ce qu'on a une baisse aussi des capacités cognitives ?
Alors, il y a une grande étude néo-zélandaise publiée il y a plusieurs années qui montrait effectivement qu'une consommation régulière de cannabis qui dure dans le temps a d'abord des effets sur la santé respiratoire.
Le tabac.
voilà, surtout quand le cannabis est mélangé avec du tabac, comme c'est le cas en France, mais aussi des effets sur la mémoire en particulier, et voilà, donc une perte de mémoire plus rapide que chez les personnes qui ne consomment pas.
Merci beaucoup, Maria Melchior. Donc, résultat important, hein, puisque les chances de faire des études secondaires lorsque l'on consomme à fumer du cannabis avant 17 ans sont donc réduites de 60%. C'est ce qui ressort donc de cette étude en épidémiologie que vous avez réalisée pour l'INSERM avec la cohorte Tempo. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ici. Et Axel, à lundi.
À lundi.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, lire dans les dents des hommes anciens comme dans les cernes des arbres. Un groupe de chercheurs canadiens et français montre que le niveau d'exposition au soleil d'un individu au cours de sa vie peut se lire dans la composition de la dentine qui constitue par couches successives le corps minéral de la dent. Cette découverte importante va permettre aux paléoanthropologues de déterminer les conditions de vie de certains de nos ancêtres sapiens et néandertaliens et connaître ainsi le climat dans lequel ils vivaient, mais également les migrations effectuées tout au long de leur vie. Encore une histoire de dents, cette fois-ci avec les femelles orang-outans qui peuvent allaiter un même petit pendant presque 9 ans, vous allez comprendre. Ce record absolu chez les mammifères n'a pas été facile à déterminer par les chercheurs, car il est bien sûr impossible de suivre aussi longtemps des orang-outans sauvages qui passent le plus clair de leur temps dans la canopée. C'est donc en étudiant les dents de ces animaux que les scientifiques ont trouvé la preuve, et plus précisément en traquant les dépôts de barium contenus dans le lait maternel et qui marquent la croissance des dents des petits orang-outans. Selon les chercheurs, l'allaitement deviendrait plus intermittent après 3 ou 4 ans. Et puis pour finir, le show est terminé pour les lions et pour les éléphants. Dans un communiqué relayé par la fondation 30 millions d'amis, la grande famille des cirques bouglignonnes abandonne définitivement les spectacles mettant en scène des animaux. Nos animaux commencent à vieillir, soit nous prenions des jeunes et on repartait pour 10 ou 20 ans, soit nous trouvions une solution pour faire autre chose, a confié André Bouglione. Il ajoute également, la plupart des cirques ne devraient pas avoir d'animaux car ils les traitent mal. Un pas de plus dans la prise de conscience collective du bien-être animal. Et c'est le club dans un instant. Juveniles avec Someone Better.
Le club au carré sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, hein, le Blob, un drôle d'organisme unicellulaire. On va fêter les 80 ans du Palais de la Découverte et puis on fera un coup de projecteur sur les abeilles sauvages qui en ont bien besoin. Et vous nous rejoignez avec vos messages, toutes vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. André Dussutour, on commence avec vous. Vous êtes éthologiste au CNRS, vous étudiez le comportement des fourmis, on vous avait reçu il y a quelques semaines à ce sujet, et également le comportement des organismes unicellulaires, et vous publiez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander. C'est aux éditions des Équateurs. Alors votre titre évidemment est très amusant parce qu'en réalité on ne s'est jamais posé beaucoup de questions autour du blob. La plupart d'entre nous allons le découvrir aujourd'hui avec vous. Alors le blob, c'est quoi ?
Les gens devraient se poser des questions.
Bah même sur maintenant, le blob. On va pouvoir s'en voilà. poser. Ouais.
Alors, c'est un organisme primitif qui a 500 millions à 1 milliard d'années.
Ouais.
Et qui est unicellulaire.
On a une petite marge. Hein.
Voilà, on a une petite marge parce qu'à l'époque, c'est pas facile de dater. Et donc, en fait, c'est un organisme unicellulaire qui est assez particulier parce qu'il peut faire plusieurs mètres carrés. Et il va partager, en fait, des caractéristiques avec les champignons, les animaux et les végétaux. Mais il ne fait pas partie de ces trois grands règnes puisque c'était là bien avant ces trois grands règnes. Mmh. Et donc, en fait, on a un organisme qui est assez particulier parce que il bouge.
Oui.
Et voilà,
donc il fait des trucs bizarres. Hein.
Et il peut, en fait, il a des capacités cognitives assez impressionnantes et c'est pour ça que l'on l'étudie, en fait.
Alors qu'il n'a pas de cerveau. Hein.
Ah non, il n'a pas de cerveau, une cellule, voilà. Il est tout à la fois, en fait.
Absolument. Ça pourrait être l'ancêtre commun, tiens, des animaux, des plantes et des champignons ou pas ?
Disons qu'en fait, c'est un organisme primitif, mais il a bifurqué un petit peu avant. Mais bien sûr, il partage des caractéristiques. Donc, par exemple, il se reproduit comme un champignon, il mange comme un animal, mais il a les piments plutôt d'une plante.
Ouais.
Et c'est pour ça que d'ailleurs, il a été classé par erreur jusqu'aux années 90 dans les champignons. Et c'est pour ça que personne en comportement s'est intéressé à un champignon.
C'est ça. Mais les mycologues plutôt, eux,
ils étaient
très intéressés par le blob.
Exactement. Tout ce qui est sport, etc. Tout le monde avait regardé. Mais pas, en fait, l'adolescent.
C'est
parce que ça, c'est la phase adolescente.
Alors, ça, c'est ce que vous montrez pour les gens qui nous suivent sur le web. Voilà, en tout cas, voilà, il faut décrire ce que vous avez. Vous avez une boîte de pétri dans la main.
Voilà, c'est une cellule, une seule cellule.
Ouais.
Donc, il faut savoir que nous, on a 100 000 milliards de cellules.
Ouais.
Et ça, c'en est une seule. C'est la taille de ma tête. Et c'est une cellule particulière parce qu'elle a plein de noyaux. Habituellement, une cellule a un seul noyau. Donc, celle-ci, elle en a des millions. Et c'est une cellule qui va grandir, qui va doubler de taille tous les jours.
Donc c'est un monstre que vous nous décrivez là, finalement.
Et qui est un redoutable prédateur de bactéries.
Oui.
Et qui mange aussi des gros champignons. Elle peut manger des cèpes sans problème. Mais qui, en laboratoire, mange des flocons d'avoine.
Ah, c'est ça, oui. C'est pas une plante carnivore, enfin c'est pas une bête carnivore en tout cas, hein. Tout va bien.
Non, ça va.
Si on la laissait dans le studio pendant quelques semaines, elle envahirait tout notre studio
Studio reste dans le noir, oui, parce que c'est un organisme qui n'aime pas du tout la lumière. Mais si on le laisse dans le noir, oui, parce qu'il trouvera, je suis sûr, quelques bactéries qui traînent ici.
Ouais. Donc le blob s'échapperait de votre boîte de pétri.
Ah oui, c'est quelque chose qui arrive assez souvent si on ne vient pas le nourrir tous les jours.
Ah oui, parce que ça réclame en plus.
Voilà, et comme il fait quand même 4 cm à l'heure parfois, quand il est très affamé...
4 cm à l'heure.
Voilà.
Ah oui, non, mais c'est extrêmement impressionnant.
C'est ça.
Ouais. Audrey Dussutour, son petit nom savant, c'est quoi alors à ce blob ?
Physarum polycéphalum.
Ouais. Alors, c'était découvert quand ? Parce que vous parlez de 500 millions à 1 milliard d'années pour les origines, mais on a des fossiles de blob ou pas ? Ça existe, ça ?
Oui, il y a un
fossile. Il y a des traces ?
Oui, le plus vieux fossile a à peu près 40 millions d'années, et il montre d'ailleurs que le blob a très peu évolué, en tout cas évolué très lentement. Donc en fait, le fossile, c'est vraiment un blob qui est similaire à celui que j'ai aujourd'hui.
Ouais.
Et donc voilà, donc c'est un organisme qui évolue lentement, mais parce qu'aussi il est très finalement optimisé.
Ouais.
Est-ce qu'il a besoin d'évoluer ?
C'est ça.
On se demande parce qu'il est assez efficace en fait.
Ouais. Bruno Macquart, qui est assis à 50 cm du blob, mais qui n'a pas peur, il est courageux.
Je suis totalement fasciné. pourquoi vous avez appelé ça blob ?
Alors ça, c'est parce qu'il a des caractéristiques qui m'ont rappelé un vieux film avec Steve McQueen qui s'appelait The Blob, qui était un film américain où c'était un extraterrestre qui s'appelait le Blob, qui mangeait pas des bactéries mais des gens et qui doublait de taille tous les jours. Et en fait, quand on a beaucoup de blob au laboratoire et qu'il s'échappe, on peut vraiment avoir des grosses structures comme ça qui peut effrayer. Ça m'avait fait penser à ce film qui s'appelait The Blob.
Audrey Dussutour, il y a eu un remake d'ailleurs de ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu en 1988. Ben, je vous propose d'en écouter la bande-annonce.
S'il avait un esprit, on pourrait le raisonner. S'il avait un visage, on pourrait le regarder dans les yeux. S'il avait un corps, on pourrait le détruire. « maintenant, l'homme n'est plus l'être suprême sur cette planète. Cet organisme grandit à une allure diabolique et de la vie de tous, il est à l'heure actuelle à 1000 fois la taille de sa masse originelle.
Je crois qu'on l'a mis en colère.
Le blob. La terreur n'a pas de forme.
Voilà, c'est ça qui vous a inspiré, Audrey Dussutour.
Tout à fait.
Ouais. Alors, faut pas avoir peur du blob, sérieusement.
Pas du tout. C'est un, moi, ce que j'aime l'appeler, c'est un bisounours, en fait. Ouais. C'est un recycleur dans la nature. Il est essentiel, en fait, dans l'environnement. Mmh. Et surtout, il nous inspire beaucoup. Il faut savoir que le blob a une forme d'intelligence. Et ça a bouleversé, en fait, les recherches qu'on a fait l'année dernière, la conception même, en fait, d'intelligence, puisque jusqu'à présent, elle était lié au système nerveux et
les
au cerveau.
Et le cerveau.
Et donc,
ouais,
l'année dernière, on a montré que le blob pouvait apprendre et donc avoir une forme de mémoire. Et du coup, ça a bouleversé un petit peu le monde scientifique.
Ouais.
On a eu beaucoup d'appels de gens qui font des neurosciences, qui sont assez intéressés du coup par le blob.
Ouais. Emmanuel Lambert, ça ferait une super manip, ça, pour le Palais de la Découverte, vos quêtes médiateurs. Présenter le blob au public, je suis sûr que ça plairait à tout le monde, ça, quand même.
Ah oui, ça, à mon avis, on a un succès fou. Mais alors, moi, je me posais la question, est-ce qu'il y a plusieurs... Vous me parliez d'une seule espèce, il y en a plusieurs ?
En fait, il y a 1000 espèces de ce qu'on appelle les physaridés, donc qui sont des organismes qui ressemblent à ce blob que j'ai amené aujourd'hui. Et en fait, lui, il fait partie d'un règne qu'on appelle les amébozoaires, qui est un règne qui va regrouper beaucoup d'unicellulaires, des unicellulaires qui sont connus, par exemple, celui qui est responsable du paludisme, dans la même famille. Donc, c'est beaucoup d'unicellulaires, c'est un peu les inclassables. Hein. Au départ, qu'on avait appelé les protistes, et qui maintenant ont un règne qui s'appelle les amébozoaires, mais qui ressemble à celui-ci. Il y a déjà 1000 espèces qui peuvent prendre toutes les couleurs.
Oui.
Là, il est jaune, mais il y en a de toutes les couleurs.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est tout à fait sérieux. Hein. Ce n'est pas un poisson d'avril du mois de mai. C'est vraiment un objet d'étude, d'ailleurs, pour votre laboratoire. On va y revenir dans un instant. D'abord, il y a Nicolas Verriken qui souhaite vous poser une question.
Mais on voit bien qu'en conditions contrôlées, il y a moyen de le faire grandir dans son milieu naturel. Est-ce que, un peu comme pour des myxomycètes, ces champignons aussi un peu vivants, est-ce qu'il peut recouvrir des grandes surfaces également?
Oui, en fait, c'est un myxomycète.
Bravo, bien joué.
Pas mal.
Bien joué.
Ouais, ouais.
Et en fait, il peut... Alors, en laboratoire, la taille record est 10 mètres carrés. C'était un cadeau qui avait été fait à un professeur qui partait à la retraite. Mais dans la nature, c'est plutôt de cette taille-là, voire 1 mètre carré, que ça va atteindre. Ouais. En fait, le but du blob, entre guillemets, c'est de se reproduire. Et il faut savoir donc, en fait, qu'il va produire des spores. Chaque noyau à l'intérieur de la cellule va devenir une spore. Donc le but pour lui, c'est de produire le maximum de spores possible pour entamer une reproduction qui est sexuée, mais qui est un petit peu particulière parce qu'il a des centaines de types sexuels.
Ah, c'est la sexualité du blob.
Voilà.
Ah oui, c'est très bizarre.
En fait, c'est comme un peu ce qui est les champignons. Il n'a pas mâle-femelle,
ouais.
Donc son sexe est déterminé génétiquement, mais c'est une combinaison de gènes qui il y a 720 possibilités. Et donc, pour le blob, il faut qu'il trouve quelqu'un. Voilà. Il a 719 chances, ce qui est pas mal. Dans la nature, il faut qu'il trouve une autre spore du sexe opposé.
Mais comment vous êtes capable d'avoir un chiffre aussi précis?
Alors, il change, en fait, régulièrement.
Ah oui, c'est ça.
Donc ça, c'est le chiffre de 2015. Donc, ouais, on n'est pas à l'abri de trouver d'autres...
C'est ça. Et on peut le croiser dans la nature, alors, très facilement. En fait, on peut même le confondre.
Oui, je pense que la plupart des gens confondent ça avec du lichen, mais il faut savoir qu'il est beaucoup plus gluant qu'un lichen.
Oui.
On peut le trouver en fait dans des forêts, pas des forêts trop acides, donc pas dans les forêts de pins, mais Physaron polycéphalum existe dans les Pyrénées.
Mm-hmm.
Mais il y a d'autres espèces partout en France, dès que c'est un peu humide.
Mais à quel moment, est-ce que vous le racontez dans le livre, votre route a-t-elle croisé celle du blob, Audrey Dussutour?
Oui, parce que de formation, je suis myrmécologue,
oui,
spécialiste des fourmis.
Fourmis,
ouais. Et en fait, c'est quand je travaillais en Australie, mon super superviseur écrivait un livre sur la nutrition et moi je travaillais sur la nutrition des fourmis et il voulait un livre de l'unicellulaire à l'homme et il fallait donc un unicellulaire observable et donc on a eu cette idée de travailler sur cet unicellulaire là et de monter une expérience comme je l'avais monté sur les fourmis sur le blob et après j'avoue que je suis tombée un petit peu en amour avec
c'est vrai,
le blob,
ouais, ouais.
Et je l'ai ramené.
Exactement.
Et je l'étudie depuis 8 ans maintenant.
C'est ça. Et vous étudiez du blob américain, du blob japonais, du blob australien, hein?
Oui, voilà, parce que venant du monde des fourmis, je trouvais bizarre pratiquement la plupart des scientifiques travaillent sur la même cellule.
Ouais.
Et du coup, je me suis dit, mais moi, j'aimerais voir si quand même toutes les cellules du blob sont identiques. Et donc, j'en ai fait venir de 3 pays différents, je les ai comparées, et elles n'ont pas du tout les mêmes comportements.
Alors, vous faites des drôles d'expériences, hein. Vous leur faites vivre l'enfer. C'est Koh-Lanta, en fait, dans votre laboratoire. C'est le Koh-Lanta du blob, en fait.
C'est exactement ça. Ils ont des challenges nutritionnels. Ils doivent aussi se avoir une petite compétition pour la nourriture. Des fois, ils doivent traverser des ponts avec des substances aversives. Donc, en fait, on monte toutes des manies pour voir si le blob est capable de résoudre des problèmes.
C'est ça. Vous les faites passer dans des milieux extrêmes, c'est ça?
Oui, voilà. Donc, récemment, en fait, on voulait voir si le blob pouvait apprendre. Et on a commencé par un apprentissage qui est très simple, qui s'appelle l'habituation. Et donc, on voulait voir si le blob était capable de s'habituer à des substances qu'il n'aime pas, mais qui sont inoffensives.
Par exemple?
Le sel, la caféine, qui est une substance amère. Et donc, l'expérience pour le blob était de traverser un pont où il y avait cette substance pour rejoindre une source de nourriture. Et on lui demandait de faire ça tous les jours. Et donc, forcément, au bout d'un moment, il s'y est habitué. On a montré que cette habituation était spécifique, c'est-à-dire qu'un blob habitué au sel n'était pas habitué à la caféine. Et on a montré aussi qu'il pouvait récupérer, bien sûr, qu'il pouvait oublier cette habituation pour pouvoir se...
C'est incroyable. Continuer. On parle d'un être unicellulaire, quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a, voilà, il y a une intelligence intrinsèque et qui se fait au-delà de neurones ou d'un cerveau.
Exactement.
Hein.
Et en plus de ça, ça ne s'arrête pas là, parce qu'il peut même transférer ses apprentissages à d'autres blobs par fusion.
La culture, alors. C'est une émergence, voilà, de la culture.
Voilà, exactement. En fait, cet organisme, on peut le couper en morceaux et ça donnera plein de blobs génétiquement identiques. Et on peut apprendre à certains des choses et voir qu'ils peuvent le transmettre à d'autres naïfs par fusion.
Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement alors dans votre laboratoire et ça va vous emmener vers quoi? Quelles questions on se pose alors quand on travaille sérieusement autour du blob?
Alors moi, je travaille dans un laboratoire qui s'intéresse à la cognition animale.
Ouais.
Et donc, c'est vraiment la capacité des animaux à résoudre des problèmes, à traiter l'information. Et donc, en fait, on utilise exactement le même protocole avec le blob. C'est juste pas un animal, mais c'est les mêmes questions qu'on a. Et ici, vraiment, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'origine, en fait, de cette adaptation, de sa façon de résoudre des problèmes. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui ont montré maintenant l'intelligence chez les plantes, donc aussi sur un système nerveux. Et donc, l'année prochaine, à Vienne, on va tous se regrouper, ceux qui travaillent sur l'intelligence primitive, donc chez ces êtres sans cerveau, pour essayer de peut-être lancer une nouvelle discipline.
C'est magnifique, en tout cas. Et il y a en plus une immortalité du blob.
Oui, alors une immortalité, alors entre guillemets, en laboratoire, ouais, parce que les gens ont peur. Je dis en laboratoire. En fait, en laboratoire, le blob, mais même dans la nature, il peut sécher. Donc on peut faire sécher le blob et le garder comme ça des années et le relancer. Et c'est comme un système de reset sur un ordinateur. Quand vous rebootez votre ordinateur et qu'il est comme neuf, et bien le blob, c'est pareil. Donc cette cellule que je vous montre ici, elle a 70 ans.
Ah oui, quand même.
Voilà, elle est
américaine.
Séchée, ravivée, resséchée.
C'est une cellule américaine.
Exactement, une cellule américaine de 70 ans.
Ouais. Bon, c'est fascinant. Profitez-en si vous avez des questions, parce que le sujet va se terminer dans quelques instants. Nicolas, est-ce que vous avez envie d'en savoir plus sur le blob?
Est-ce qu'il y a moyen de faire des observations similaires avec toute une série d'autres myxomycètes en Europe, par exemple?
Alors, moi, j'en rêverais, parce que je trouve ça dommage que toutes les études dans le monde se focalisent sur une seule espèce de myxomycète qui est Physarum polycéphalum. Mmh. Parce qu'à mon avis, on n'est pas à l'abri de surprises si on observe juste ses cousins proches.
Bon, en tout cas, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, d'abord, il faut aller sur Internet voir à quoi ressemble cet être unicellulaire. Vous tapez blob et vous allez tout de suite tomber dessus. Et puis lire ce livre aux éditions Équateur. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander. Et puis vous parlez beaucoup de la recherche scientifique également. Hein. C'est tout le parcours d'une chercheuse avec les difficultés parfois pour faire de la recherche. Il y a ça aussi, hein, comme fil rouge.
C'est très important.
Dans le livre. Voilà, c'est ça, et vous défendez votre profession et la recherche fondamentale, c'est important et c'est passionnant, comme on l'a entendu avec vous Audrey Dussoutour. Vous restez avec nous dans un instant, le Palais de la Découverte et ses 80 ans.
C'est pour ça qu'on y va.
Hey Cowboy, j'ai de l'or dans le club de la tête au carré. Notre deuxième sujet avec ce week-end d'anniversaire au Palais de la Découverte. Les 80 ans de ce haut lieu de la science. Bruno Macquart, vous êtes le président d'Univers Sciences et vous êtes venu accompagné d'Emmanuel Lambert, médiatrice scientifique en sciences de la Terre. Et donc, à partir de demain, samedi, c'est un grand week-end porte ouverte, Bruno Macquart, pour fêter cet anniversaire.
Tout à fait, et qui coïncide avec la Nuit Européenne des Musées. Ouais. Un tout petit peu triché, puisque les 80 ans, c'est le 24 mai. Mm-hmm. Donc on s'est dit que c'était bien de faire ça un week-end, de fête populaire et où tous nos musées sont ouverts.
Ça paraît très logique, effectivement. Pour découvrir, alors quoi, Emmanuel, ça va être les expériences les plus célèbres, comme celle, par exemple, de l'électricité statique, qui était une des toutes premières en 1937.
Alors effectivement, elle était présentée dès 1937 avec une ampleur un peu plus volumineuse que celle d'aujourd'hui.
C'est vrai?
Oui, ouais. Aujourd'hui, on a des éclairs qui vont atteindre 200 000 volts. À l'époque, on atteignait les 5 millions de volts.
Ah oui, quand même.
Oui, mais bon, les normes de sécurité nous obligent aujourd'hui à diminuer un peu les choses.
Donc c'était le clou du spectacle déjà à l'époque.
Tout à fait, l'aviez dès l'entrée dans le hall d'antin.
C'est ça, oui. Bruno Macquart, comment a commencé le Palais de la Découverte? Alors c'est Jean Perrin, c'est ça, qui est à l'origine?
Alors c'est Jean Perrin qui a constitué en fait...
Prix Nobel de physique.
Prix Nobel de physique, exactement, et qui a réuni un groupe de savants. Les plus grandes de son époque. Il faut pas oublier non plus qu'il est le père du CNRS. Et donc, le Palais de la Découverte, il disait, c'est une manière pour nous, c'est un compte-rendu de mandat. C'est-à-dire qu'on va expliquer aux gens ce qu'on fait de l'argent public. Il avait déjà l'intuition que la science allait prendre une place grandissante dans la société. Ouais. Et il faut mettre la science au milieu de la vie, et au milieu de Paris, par ailleurs, parce qu'on est au pied des Champs-Élysées depuis 80 ans. C'est un endroit formidable. Et son intuition était géniale, parce qu'effectivement, la science n'a cessé de prendre de la place. Et qu'on est à un endroit où on parle des fondamentaux de la science, pour comprendre les inventions et puis pour comprendre après ça les applications techniques. Ouais. C'est en même temps l'héritier du grand mouvement de vulgarisation des sciences qui a culminé entre 1850 et 1900. Il y a une très belle exposition à la Bibliothèque nationale de France en ce moment qui s'appelle « Sciences pour tous ». Donc on est les héritiers de Camille Flammarion, on est les héritiers aussi de Jules Verne, en ouais. un sens, qui a vu donc au moment du Front Populaire un mouvement... C'est-à-dire très politique,
c'est ça.
D'affirmation ouais. des sciences et d'affirmation des sciences pour le plus grand nombre, pas simplement pour une élite, mais aussi pour tout un chacun. Il avait un modèle, Jean Perrin, c'était Faraday. Faraday qui était d'origine très populaire, qui s'est mis à lire des ouvrages scientifiques et puis qui est devenu le scientifique qu'on connaît. Ouais. Et donc il disait, Jean Perrin, qu'il espérait que grâce au Palais des Découvertes, on allait faire naître des Faraday en France. Ouais.
Mais il y a eu la fameuse cage de Faraday d'ailleurs.
Elle est toujours là.
Elle est toujours là.
La cage de Faraday.
Dans laquelle on enferme le public. C'est toujours le cas ou pas?
Ah, c'est toujours le cas et ça sera encore le cas encore pour de nombreuses années puisque l'intérêt aussi c'est que le Palais de la Découverte, il crée l'émerveillement. Et que on n'est pas à l'école, on n'est pas à la télévision, on est dans un endroit où vous rencontrez des gens. C'est, je pense, le lieu où la curiosité n'est pas un vilain défaut. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et il y a des gens comme Emmanuel, dont le métier, c'est de répondre à vos questions.
Ouais.
C'est ça qui est formidable dans un monde qui en pose des questions, on s'en pose tous. Eh bien, vous avez un lieu où des gens sont entraînés, formés, et aiment faire ça. Et tous les jours, eh bien, ils rencontrent du public, des petits, des grands, des gens qui savent, des gens qui savent pas. Tout le monde est bienvenu. Vous poussez la porte, vous posez vos questions, vous repartez avec des réponses.
C'est donc la science en train de se faire. Hein. C'est vraiment cette idée de Jean Perrin au départ. Donc, on le disait, prix Nobel de physique. Il y a un autre prix Nobel de physique auquel on rendait hommage hier dans l'émission. C'est Pierre-Gilles de Gennes, qui nous a quittés il y a 10 ans. Et je vous propose de l'écouter parce qu'il y a une autre archive dans laquelle il parle directement du Palais de la Découverte.
Le point de curiosité que vous dites là, je pense que peut-être je l'ai eu le plus avec le Palais de la Découverte. Je me vois très bien dans les années 46 par là, allant au Palais de la Découverte et regardant, en fait, ce qu'on nous montrait, c'est des décharges dans les gaz, c'est-à-dire pratiquement ce que nous appelons maintenant des tubes néons, qu'on a partout et qui ne sont pas un objet de grande surprise. Mais là, on nous montrait des tas de décharges dans les gaz. C'est des phénomènes qui sont en fait très compliqués et pas nécessairement tellement passionnants. Mais à l'époque, ça me paraissait extraordinairement mystérieux. Aussi, d'une façon générale, l'optique. Le Palais de la Découverte avait de très belles expériences d'optique et ça m'avait beaucoup frappé. Donc le souvenir que j'ai du Palais de la Découverte, c'est certainement qu'il y a quelque chose qui a compté.
Voilà, Pierre-Gilles Legène, c'est un beau message quand même pour cet anniversaire. Emmanuel Lambert, alors parlez-nous justement de vos camarades médiateurs et médiatrices. Vous êtes nombreux au Palais de la Découverte à accueillir le public pour les manips.
Alors sur le site du Palais, on est 41
ouais,
officiellement.
C'est beaucoup,
ouais. Oui, c'est beaucoup, mais c'est le strict minimum, je pense, pour vraiment accueillir dans de bonnes conditions.
Très bien, j'entends bien le message. Alors quel est votre rôle exactement par rapport à ces expériences scientifiques que vous donnez à voir au public?
Alors l'idée du médiateur, c'est vraiment de faire le lien entre le monde de la recherche et le grand public. Et après, nous allons utiliser utiliser tous les moyens à notre disposition justement pour vulgariser ce message. Donc la partie la plus visible, c'est en effet ce que vous allez voir si vous venez au Palais, notamment ce week-end, ce sera une présentation orale avec des appuis d'expérience, des échanges, des questions, et puis après, ça peut être de l'écriture, de la formation, des expositions, donc tout ce qui est à notre disposition.
Vous êtes tous scientifiques à la base, oui, les médiateurs ?
Tout à fait, ouais. Oui, ça c'est vraiment un prérequis. Après, on va se former sur le tas, on va dire, mais oui, il faut tous être scientifiques au départ.
Ouais. Donc vous êtes géologue, oui, en l'occurrence, et puis un beau jour, vous avez décidé d'arrêter ce travail de géologue pour vous consacrer à la diffusion de la science, alors ?
Alors en fait, c'est durant ma thèse que j'avais entamé justement parce que je voulais enseigner et vulgariser déjà, on va dire, au stade de l'université, que j'ai découvert le Palais de la Découverte et j'ai trouvé que ça y est, c'était l'endroit où je voulais travailler. Ouais. Et donc depuis, je ne suis jamais repartie.
Ouais. Bruno Macquart, il y a plein de scientifiques qui se revendiquent vraiment du Palais de la Découverte. Il y avait une enquête même qui avait été menée à ce sujet. Hein.
Mais oui, c'est un peu la maison des prix Nobel, et au-delà, Mounir Majoubi, le nouveau secrétaire d'État au numérique, il ne cesse de parler du Palais des Découvertes, il dit qu'il l'a beaucoup fréquenté. Et donc c'est ça, c'est un lieu qui suscite beaucoup d'attachement auprès du public. Je pense que tout le monde, quand il y est passé pour la première fois, en garde le souvenir, c'est ça qui est beau. C'est un éveilleur de curiosité, un éveilleur de vocation, et c'est une recette assez magique, assez unique, qui repose... comme vous le disiez, sur une alchimie très subtile entre intervention humaine et puis démonstration physique, mais ça marche très bien.
Ouais. Emmanuel, justement, est-ce que vous allez refaire les manipulations qui ont marqué l'histoire du Palais de la Découverte, alors ?
Là, durant ce week-end.
Ouais.
Quelques-unes vont être en effet refaites. Après, c'est l'idée de faire des choses un peu plus originales afin d'ouvrir pour ce que sera le futur palais. Mm-hmm. Donc, on peut tester des choses. Mais je ne vais pas tout vous dire, je vais vous laisser quand même...
Donnez-nous quand même deux ou trois exemples de rendez-vous avec les médiateurs alors, là, pendant ce week-end.
Pour moi, un rendez-vous qui va être essentiel, c'est celui qui va démarrer samedi, où justement on parle de la recherche. Et là, vous allez pouvoir rencontrer de jeunes chercheurs, c'est-à-dire des jeunes qui sont en train de faire leur thèse. Mm-hmm. Mais ce sera avec une façon un peu plus décalée de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que typiquement, vous allez avoir des présentations de leur thèse en 10 minutes, mais de façon un peu détonnante, c'est-à-dire en chantant, en mimant, en poésie. Donc, on a aussi une troupe de comédiens qui intervient et qui a essayé de fixer quelques instants de la thèse qui dure entre 3 et 4 ans. Donc, c'est vraiment quelques instants et qui va être mis en comédie. Et puis vous aurez aussi à la même occasion l'opportunité de rencontrer deux personnalités. Donc qui seront Jacques-Marie Bardenzef à 14h le samedi et Brigitte Senu. Voilà, et Brigitte Senu, paléanthropologue, ouais, qui elle-même dans sa jeunesse est passée par le palais et donc qui en garde un souvenir ému. Ouais.
Bruno Macquart, est-ce qu'on va pouvoir voir des photos, des documents qui marquent justement ces 80 années ?
Alors oui, puisque le week-end va être très riche, je rajouterais qu'on a un tour de science en 24 heures, une espèce de voyage immobile qui va nous permettre de faire un voyage dans le temps, dans l'espace, à l'intérieur du corps. Et donc, encore une fois, à partir de samedi 18h, sans discontinuer, donc on ne fermera pas pendant la nuit, jusqu'au lendemain à 18h, nous allons avoir ce formidable tour de force, puisque c'est 24 heures de médiation scientifique non-stop. Et puis par ailleurs, on a invité un artiste de nationalité belge, qui s'appelle Patrick Evrart, à revisiter, à regarder le travail que Robert Doisneau, qu'on ne présente plus, célèbre photographe, qu'il a réalisé au Palais de la Découverte, et il nous a fait un travail... assez magique pour les 80 ans.
Et ce sera donc gratuit de 18h demain samedi jusqu'à 10h dimanche matin, week-end porte ouverte, et vous allez sur le site du Palais de la Découverte pour avoir tout le programme et puis rejoindre donc toute l'équipe qui travaille là-bas.
Et soupe à l'oignon à 4h du matin.
Et qui vous, bravo. Et qui vous invite pour cet anniversaire et pour ces 80 ans avant la fermeture en 2020. Il y aura
fin 2020.
4 années de travaux.
Non, moins que ça, puisqu'on va en 2024 avec un palais magnifiquement rénové.
Bah 2020-2024, ça fait 4 ans a priori. Donc bon, en tout cas, bon anniversaire, profitez-en bien, ça commence donc demain samedi et jusqu'à dimanche pour les portes ouvertes. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been. Sing Everything But The Girl.
La tête au carré. Le club.
Découvrir et protéger nos abeilles sauvages. Nicolas Virecken, vous êtes l'auteur de ce livre qui paraît chez Glénat. Vous êtes ingénieur en sciences agronomiques, docteur en sciences biologiques, professeur d'agroécologie à l'Université libre de Bruxelles. Et vous êtes également photographe. C'est vous qui avez fait toutes les photos du livre?
90 ou 95% des photos sont de moi, oui, effectivement. Ouais.
Alors, ces abeilles sauvages, évidemment, c'est une façon de prendre conscience qu'elles existent par rapport à nos abeilles domestiques, dont on parle beaucoup, évidemment.
Oui, c'est vraiment ce qui nous manque. Je pense une iconographie pour... aider le grand public à se faire une autre image mentale, une autre représentation aussi de cet énorme pan de la biodiversité de nos régions. Vous avez 900 espèces d'abeilles sauvages en France. Celle qui fait du miel, c'est une seule espèce. Et donc toutes les autres sont aussi différentes les unes des autres qu'une mésange par rapport à une grue, par rapport à un grand-duc, etc. Si on prend un lien avec tout le monde des oiseaux, par exemple. Ouais.
Une espèce domestique et tout le reste, sur les 900, ce sont des abeilles sauvages.
Tout à fait.
Donc,
oui,
en l'occurrence, ouais. Alors Emmanuel demande, j'ai souvent des abeilles qui viennent se balader chez moi, mais comment savoir si elles sont domestiques ou sauvages? Ça se voit à quoi alors?
Alors il y a plusieurs caractères, mais ce sont souvent des caractères... microscopique, et donc il faut passer par des comparaisons de photographie, de macrophotographie, mm-hmm. pour pouvoir identifier certains caractères. Les abeilles domestiques ont les yeux poilus, ont une nervure particulière sur l'aile, ont des pattes élargies, etc. Il faut déjà avoir un peu l'œil, ou avoir un support visuel pour pouvoir vraiment commencer à faire des comparaisons. C'était un peu le but du bouquin aussi, c'est de montrer toute cette diversité de formes, de couleurs et de comportements qu'on retrouve chez les abeilles sauvages, mm-hmm. et de les contraster quelque part par rapport à l'unique espèce qui remplit beaucoup nos esprits, nos discussions, etc. Et aussi pas mal d'intérêt en termes du grand public.
Elles sont apparues quand, les abeilles sur Terre? Est-ce qu'elles ont pu croiser le blob au tout début ou pas?
Alors, elles sont très anciennes, mais elles ne sont pas aussi anciennes que ça, évidemment. Donc, on a des données fossiles qui nous indiquent qu'elles seraient apparues autour de 120 millions d'années, à peu près. Avec des fossiles plus récents aussi qu'on a autour de 30-40 millions d'années, par exemple.
Alors Léa demande, moi je veux bien adopter des petites abeilles sauvages dans mon jardin, mais est-ce que ça pique ces abeilles sauvages précisément?
Elles sont généralement totalement inoffensives, c'est-à-dire que leur agressivité va être proportionnelle à la quantité de ressources qu'elles protègent. Mmh. Donc comme elles font des petites familles, elles n'ont pas beaucoup de ressources dans leur nid et donc elles n'ont pas tendance à vouloir protéger à tout prix et à vouloir quadriller tout l'environnement contre n'importe quel humain ou animal qui s'approcherait.
Ouais. Elles sont menacées alors ces abeilles? Est-ce qu'on enregistre des effondrements de population comme pour les abeilles domestiques?
Alors on observe des disparitions de certaines espèces parfois à des échelles assez colossales, mais il faut essayer de rétablir aussi un peu une réalité scientifique qui est qu'il y a une partie des espèces en Europe qui sont en déclin, mais il y a aussi une partie des espèces en Europe qui sont stable, et il y a aussi quelques espèces qui vont mieux qu'avant. Et donc je pense que faire le tri un peu dans tout ça permet aussi d'orienter certaines priorités, certaines politiques de développement, de plans de conservation. Et c'est avec ce genre d'informations-là qu'il faut partir en campagne.
Ouais. Et pour celles qui vont mieux qu'avant, alors qu'est-ce qui s'est passé dans leur environnement?
Alors c'est parfois le réchauffement climatique qui favorise des périodes de floraison plus longues.
Ah.
Par exemple pour le lierre, par exemple.
Les bienfaits du réchauffement climatique, malheureusement, on peut dire des choses comme ça dans certains cas.
Il y a aussi des aspects positifs. Pour le lierre, par exemple, qui fleurit davantage et plus longtemps, quand on a un peu des étés indiens, eh bien ça profite à une espèce qui est spécialisée sur le lierre et qui est en véritable explosion démographique et géographique aujourd'hui à l'échelle européenne. Mmh.
Jean-Paul demande, est-ce que la disparition de ces abeilles est aussi due aux prédateurs comme le frelon asiatique?
Le frelon asiatique va comme le frelon européen et comme le frelon oriental, qui sont deux espèces de frelons d'Europe, va chasser des insectes qui sont présents en grand nombre souvent. Et il y a beaucoup plus d'informations qui sont ramenées par les apiculteurs qui voient ces frelons fondre sur leurs ruches de manière ponctuelle. Donc on a plus d'observations sur l'abeille domestique qui est simplement plus abondante à l'échelle locale. Mais il n'y a pas beaucoup plus de prédation que par rapport à d'autres frelons qui vont aussi attaquer des espèces d'abeilles comme l'abeille domestique, par exemple.
Alors justement, dans cet ouvrage, vous faites bien la part des choses entre les domestiques et les sauvages. Alors, ça permet de comprendre exactement comment vivent ces abeilles. Il n'y a pas de reines chez les abeilles sauvages, par exemple?
Alors, à l'exception des bourdons qui vivent en très petites colonies, c'est une espèce d'état un petit peu intermédiaire, si on peut dire, entre des espèces strictement solitaires qui correspondent à l'immense majorité des espèces d'abeilles sauvages, et l'abeille domestique qui est un peu un ovni en fait dans le paysage des abeilles, puisque c'est une espèce qui fait des colonies énormes avec plusieurs dizaines de milliers d'individus, avec un partage des tâches, avec la reine qui pilote tout de manière très pyramidale. C'est un mode d'organisation sociale qui est tout à fait unique en Europe, qui est relativement peu développé à l'échelle mondiale. Et donc s'il fallait décrire l'abeille archétypale, si vous voulez, l'abeille type,
c'est ça, ouais.
Ce serait une petite bestiole solitaire, qui, où on, ah, solitaire, on retrouverait un mâle, une femelle, une toute petite descendance, un peu comme pour tous les papillons, pour tous les coléoptères, etc.
Ouais.
C'est un mode de vie typique des insectes et on associe bizarrement le côté très social, le côté miel, etc.
C'est ça, et ruche,
aux abeilles, hein. Alors qu'en fait, typiquement, elles ne font pas de miel et donc typiquement, elles sont solitaires.
Audrey Dussoutour, est-ce qu'il existe des fourmis solitaires ou pas?
Non, toutes les fourmis sont sociales. Et c'est pourtant des hyménoptères comme les abeilles,
c'est
mais
ça, ouais.
On ne trouve pas de fourmis solitaires. Du tout.
Bruno Macquart.
Alors, est-ce que les abeilles domestiques ont un jour été des abeilles sauvages? Comment on devient abeille domestique?
Alors, on devient domestique, entre guillemets, quand il y a une influence de l'homme sur le mode de reproduction ou sur la gestion des populations. Et donc, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les abeilles Apis mellifera qu'on retrouve dans nos ruches, il y a de moins en moins, voire presque plus du tout, de colonies sauvages aujourd'hui en Europe.
Ouais.
Et il y a, entre autres, un peu une réflexion qui est en train d'émerger à l'échelle scientifique qui dit, voilà, il faudrait peut-être laisser plus de colonies sauvages aussi et pas récupérer systématiquement tous les essaims échappés pour les remettre dans les ruches et essayer de les laisser un peu se développer davantage dans des milieux naturels ou semi-naturels pour qu'elles se redéveloppent un peu dans nos campagnes de façon moins contrôlée.
Ouais. Mais chez les domestiques, est-ce qu'il y a des électrons libres qui un jour décident de quitter la ruche pour aller vivre leur vie en solitaire? Ça existe ou pas?
Alors,
ça
les mâles, par exemple, traînent un peu dans la ruche et puis à un certain moment donné dans le développement de la colonie, ils se font mettre dehors gentiment ou parfois violemment aussi parce que finalement, ils vivent un peu aux dépens de la colonie et donc il y a toute une masse ouvrière à qui ça ne plaît pas trop.
Donc il n'y a pas de ruche chez les abeilles sauvages.
Et donc chez les abeilles sauvages, elles font des petits nids avec une toute petite descendance, elles planquent leur nid dans des coquilles d'escargots.
Ah oui, alors ça, on découvre ça dans votre liste, ça c'est très amusant effectivement, alors dans plein d'endroits différents d'ailleurs.
Exactement, et elles utilisent aussi beaucoup de matériaux pour construire leur nid, beaucoup de matériaux différents, et donc on retisse des liens, si vous voulez, entre ces insectes et leur milieu environnant. On comprend mieux qu'elles ont besoin, bien sûr, de pollen et de nectar, mais il y a toute une série d'autres éléments comme de la résine, des pétales de fleurs, des fragments de feuilles, etc., qu'elles utilisent pour faire leur nid.
Donc elles font pas de miel.
Et donc elles ne font pas de miel.
Ouais.
L'énorme majorité ne fait pas de miel.
Ouais. Alors on découvre donc les abeilles hélicicoles, c'est celles qui font leur nid dans les coquilles d'escargots par exemple.
Tout à fait, et c'est pas un truc qui leur passe par la tête pendant 2-3 minutes et puis elles font un truc normal.
C'est vraiment
elles
leur habitude.
Elles font ça toute leur vie, de génération en génération. Et au cours de l'évolution, il y a plusieurs groupes qui indépendamment ont développé cette capacité à faire leur nid dans des coquilles d'escargots vides. Ouais.
Alors très étonnant aussi, les abeilles terricoles.
Ça c'est l'énorme majorité des espèces d'abeilles sauvages font leur nid dans le sol. Et donc, on est parfois appelé tous les printemps par des personnes qui pensent qu'un apiculteur est venu jeter sa ruche dans un parc, fatigué des problèmes liés au secteur apicole. Mais en fait, ce sont des abeilles solitaires qui vivent donc dans des petits trous, dans des petites galeries, de façon autonome, sans contact social. Donc, elles se rassemblent parfois au même endroit, mais il n'y a pas de contact social. Et donc, c'est vraiment l'énorme majorité qui vit comme ça.
Ouais, ça c'est étonnant. Est-ce que les abeilles sauvages ont un statut de protection? Demande Jean-Paul sur franceinter.fr.
Alors là, c'est un énorme travail qui reste à faire, parce qu'il y a extrêmement peu de protection qui est accordée aux espèces à l'heure actuelle. On sait que par exemple qu'en Allemagne, elles sont toutes protégées.
Mmh.
Mais si vous passez la frontière, si vous allez du côté de la Belgique, dans mon pays ou chez vous, il y a pratiquement aucune législation aujourd'hui qui protège des espèces, alors qu'on a des documents et des recherches qui démontrent très clairement que certaines espèces ont disparu en Europe à de très larges échelles géographiques.
Il y a plein d'auditeurs qui aimeraient bien vous aider. J'habite Paris, j'ai quand même un petit balcon. Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider les abeilles sauvages, habitat, nourriture? Alors vous le dites dans le livre.
Il y a plein de choses à faire, effectivement. Et donc à la fin du livre, je propose une liste de plantes. C'est une liste non exhaustive, bien sûr, mais simplement pour donner un peu une idée de ce qu'on peut favoriser, même sur des balconnières, et des espèces qui vont se succéder au fil de l'année. Et on remarque dans ce tableau que toutes les espèces n'attirent pas toutes les abeilles. Donc il y a aussi une réflexion à avoir sur quelles plantes installer, à quel moment et en quelle abondance, pour pouvoir avoir un impact maximal. Et c'est vraiment à la portée de tous.
On peut installer un hôtel à abeilles sauvages, par exemple.
Tout à fait, un hôtel à abeilles sauvages. Et donc j'ai indiqué une recette, mode d'emploi, si vous voulez, pour faire ça. C'est très facile, mais suivez ces conseils ici, parce qu'on en vend beaucoup dans le commerce, qui sont totalement inefficaces et qui vous font débourser parfois plusieurs dizaines d'euros. Donc faites ça avec des matériaux simples et faites-le vous-même.
Voilà comment découvrir et protéger nos abeilles sauvages, Nicolas Wireken. Ce livre paraît chez Glénat avec de très belles photos et tout un tas de choses qu'on apprend sur ces insectes qu'on connaît bien mal, effectivement. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Audrey Dussoutour, le blob, et bien toutes les réponses également sur ce drôle d'organisme aux éditions Les Équateurs. Et puis les 80 ans du Palais de la Découverte, c'est donc ce week-end, porte libre, porte ouverte et puis gratuité de 18h samedi à 10h dimanche matin. Et puis si vous avez envie d'aller au théâtre la semaine prochaine, un rendez-vous à noter, la troisième conférence d'Emma la Clown et de Catherine Dolto avec la complicité d'Hubert Reeves, conférence anti-fin du monde par ce duo improbable, s'appelle Zumain, après avoir abordé la naissance dans leur conférence précédente, puis l'amour dans leur symposium. Emma la Clown et Catherine Dolto s'attaquent au grand sujet, les humains et leurs biotoques. Vous allez pouvoir réfléchir, rire, vous informer, vous alarmer aussi. C'est au Théâtre de l'Atelier à Paris dans le 18e. Deux représentations la semaine prochaine. Attention, il faut réserver dès maintenant. C'est mardi 23 et mercredi 24 au Théâtre de l'Atelier. Zumain pour ceux qui souhaitent aller au théâtre et s'amuser. Merci beaucoup à tous.
Merci à tous.